Chapitre 10. Je restai réveillé durant cette longue nuit et le jour suivant, à me tordre de douleur et à faire la navette entre mon lit et la salle de bain en traînant mon appareil de perfusion. J'essayais d'uriner douloureusement, puis examinais l'absurde filtre au travers duquel je devais opérer, à la recherche du calcul rénal qui me suppliciait. Plus tard, en fin de matinée, j'éliminais le truc. Pendant une minute, je n'arrivais pas à y croire. Il est vrai que la douleur avait été moins forte depuis environ une demi-heure, juste un écho de la souffrance dans mon dos et mon bas-ventre, mais tandis que je contemplais la minuscule chose rougeâtre dans le cône du filtre, plus grosse qu'un grain de sable, mais bien plus petite qu'un caillou, je n'arrivais pas à admettre que c'était ça qui m'avait causé une douleur aussi atroce pendant tant d'heures.
« Il faut y croire, »
dit Aînée, assise au bord du siège en me regardant remettre ma veste de pyjama en place.
« Dans la vie, ce sont souvent les plus petites choses qui provoquent les plus grandes souffrances. »«
Ouais, » répondis-je. Je savais vaguement qu'Aînée n'était pas là, que je n'aurais jamais uriné devant quelqu'un, encore moins devant cette jeune fille. J'avais des hallucinations de sa présence depuis la première piqûre d'ultramorphine.
« Félicitations !»
dit l'aînée hallucinatoire. Son sourire semblait assez réel, celui un peu malicieux, un peu taquin, qui relevait le côté droit de sa bouche auquel je m'étais accoutumé. Et je la voyais là, vêtue du pantalon en toile verte et de la chemise en coton blanc qu'elle portait souvent pour travailler dans la chaleur du désert. Mais je voyais aussi le lavabo et les serviettes de toilette à travers son corps.
« Merci !»
dis-je, et je retournais en traînant les pieds m'effondrer sur le lit. Je n'arrivais pas à croire que la douleur ne reviendrait pas. D'ailleurs, le docteur Molina m'avait dit qu'il pouvait y avoir plusieurs calculs. Aînée avait disparu lorsque Demria, Demloa et le soldat qui me gardait entrèrent dans la chambre.
« Oh, c'est merveilleux !»
s'écria Demria.
« Nous sommes tellement contents !»
dit Demloa.
« Nous espérions que vous n'auriez pas besoin d'aller vous faire opérer au dispensaire de la Pax. »«
Posez votre main droite ici, »
dit le Lusien. Il me passa les menottes pour m'attacher au dosseret en cuivre.
« Je suis prisonnier »
dis-je, sonné.
« Vous l'avez toujours été, »
grogna-t-il. Sa peau brune était luisante de sueur sous la visière de son casque.
« Le glisseur viendra vous chercher demain matin. On ne veut pas que vous manquiez le voyage. »
Il retourna se mettre à l'ombre de l'arbre barrique devant la maison.
Oh,
dit Demloa en touchant mon poignet menotté de ses doigts froids.
Nous sommes désolés, Roland Dimillon.
Ce n'est pas votre faute, répliquai-je. Je me sentais si fatigué et si drogué que ma langue ne voulait pas fonctionner correctement.
Vous avez seulement été gentil, tellement gentil.
La douleur atténuée m'empêchait de dormir.
Le père Clifton aimerait bien venir parler avec vous. Vous voulez bien ?
Des rats araignées en train de mordiller mes orteils m'auraient fait autant plaisir que l'idée de bavarder avec un missionnaire.
Bien sûr. Pourquoi pas ?
Dis-je. Le père Clifton était plus jeune que moi. Petit, mais pas autant que Demria ou Demloa, ou tous ceux de sa race, et rondelet, avec des cheveux couleur sable qui s'éclaircissaient et un visage amical et rouge. Je me dis que je connaissais ce type d'homme. Il y avait un chapelain de la garde nationale qui ressemblait un peu au père Clifton, sérieux, plutôt inoffensif, un peu fils à sa maman. Il était devenu prêtre parce qu'il ne voulait pas vraiment grandir ni devenir responsable de ses actes. C'était Grande Dame qui m'avait fait remarquer que les prêtres de paroisse des différents villages des confins de la Lande, sur Hyperion, avaient tendance à rester quelque peu enfants, traités avec déférence par leurs paroissiens, trop choyés par les ménagères et les femmes de tous âges, jamais en véritable compétition avec les autres adultes mâles. Je ne pense pas que Grande Dame ait été une militante anticléricale malgré son refus d'accepter la croix. Elle s'amusait seulement de cette tendance que révélaient les prêtres de paroisse du grand et puissant empire de la Pax. Le père Clifton voulait discuter théologie. Je pense qu'alors j'ai poussé un gémissement, Mais le bon prêtre a dû prendre cela pour une réaction au calcul rénal, car il se pencha vers moi, me tapota le bras et murmura
« Allons, allons, mon fils !»
Je ne fis pas remarquer qu'il avait au moins 5 ou 6 ans de moins que moi.
« Roll, vous permettez que je vous appelle Roll ?»«
Bien sûr, père. » Je fermai les yeux comme si je tombais endormi.
« Que pensez-vous de l'Église, Roll ?»
Sous mes paupières, je roulais des yeux.
« L'Église, père ?»
Le père Clifton attendit. Je haussai les épaules. Ou, pour être plus précis, je tentais de hausser les épaules. Ce n'est pas si facile que ça quand vous avez le poignet attaché par des menottes au-dessus de votre tête et que l'autre bras est au bout d'une perfusion. Le père Clifton a dû comprendre mon geste maladroit.
« Cela vous laisse indifférent, n'est-ce pas ? »
demanda-t-il d'une voix douce. Aussi indifférent qu'on peut l'être envers un organisme qui a essayé de m'emprisonner et de me tuer, pensais-je.
Pas indifférent, père.
C'est seulement que l'Église n'a pas grand-chose à voir avec ma vie sur beaucoup de plans.
L'un des sourcils couleur de sable du missionnaire se haussa légèrement.
Mince alors. L'Église est peut-être un tas de choses, Roll, qui ne sont pas toutes impeccablement bonnes, j'en suis sûr. Je ne pense pas qu'on puisse l'accuser de laisser tomber les gens.
J'essayais de hausser de nouveau les épaules, mais je décidai qu'un spasme maladroit de ce genre suffisait amplement.
« Je vois ce que vous voulez dire, » répliquai-je en espérant que la conversation était terminée.
Le père Clifton se pencha plus près, les coudes sur les genoux, les mains croisées, mais plus en un geste de persuasion que de prière.
« Roll, vous savez qu'on va vous ramener à la base de Bombassino dans la matinée ?»
Je hochai la tête. Au moins ma tête pouvait encore bouger.
Vous savez que le châtiment réservé par la flotte de la Pax et le Mercantilus à un déserteur est la mort.
Oui, mais seulement après un procès dans les règles.
Le père Clifton ignora mon sarcasme. Un souci ridait son front. S'inquiétait-il de ma destinée ou de mon âme éternelle? Je n'en savais rien. Peut-être les deux.
Pour les chrétiens,
commença-t-il, puis il se tut un moment.
Pour les chrétiens,
reprit-il,
une exécution est une punition, un moment pénible, peut-être même un bref accès de panique, mais après, il s'amende et continue à vivre. Pour vous,
le néant, dis-je en l'aidant à finir sa phrase. Le grand engloutissement, les ténèbres éternelles, nada, je deviens un ragoût pour les vers. Je ne fis pas rire le père Clifton.
Ce n'est pas obligatoirement le cas, mon fils.
Je soupirai et regardai par la fenêtre. C'était le début de l'après-midi sur Vitus Grey Balianus B. La lumière du soleil n'était pas la même que celle des mondes que j'avais bien connus, Hyperion, l'ancienne Terre. Même Mare Infinitus et les autres endroits visités brièvement mais intensément, pourtant la différence était si subtile que j'aurais eu du mal à la décrire. En tout cas, cette lumière était belle, indiscutablement. Je contemplais le ciel cobalt zébré de nuages violets, la lumière d'un jaune chaud qui tombait sur la daube rose et le rebord de bois de la fenêtre. J'écoutais le bruit des enfants qui jouaient dans la ruelle, la douce conversation de Cess Ambre et de son frère malade, Bean, le brusque éclat de rire lorsque quelque chose dans leur jeu les amusait, et je pensais perdre tout cela à jamais. J'entendis Aîné me dire
« Perdre tout cela à jamais ? C'est l'essence de l'être humain, mon amour. »
Le père Clifton s'éclaircit la gorge.
« Roll, avez-vous entendu parler du pari de Pascal ?»«
Oui. » »«
Vraiment ?»
Le père Clifton parut surpris. J'avais l'impression que je venais de couper le fil du raisonnement qu'il avait préparé.
« Ah, alors, vous savez qu'il est irréfutable, » dit-il,
quelque peu sans conviction.
Je soupirai de nouveau.
La douleur restait stable maintenant, plus de ces marées montantes et descendantes qui m'avaient submergé ces derniers jours. Je me souvins que j'avais découvert Blaise Pascal en parlant avec Grandame quand j'étais gamin, puis que j'en avais discuté avec Aîné dans le crépuscule de l'Arizona, et que pour finir, j'avais cherché ses pensées dans l'excellente bibliothèque de Taliesin West.
Pascal était un mathématicien, disait le père Clifton, un pré-égérien, du milieu du XVIIIe siècle, je pense.
En fait, il a vécu dans la seconde moitié des années 1600, dis-je, de 1623 à 1662, je crois. En réalité, je bluffais un peu sur les dates. Les chiffres me semblaient justes, mais je n'aurais pas misé ma vie dessus. Je me souvenais de l'époque parce que Aîné et moi avions passé deux ou trois semaines d'un hiver à discuter des lumières et de leurs conséquences sur les gens et les institutions pré-égyriennes avant la Pax.
« Oui, dit le père Clifton, mais l'époque où il a vécu n'est pas aussi importante que son pari. Réfléchissez, Roll. D'un côté, une chance de résurrection, l'immortalité, une éternité dans le ciel et le bénéfice de la lumière du Christ. De l'autre, comment l'exprimer ?
Le grand engloutissement, nada.
Pire que cela,
dit le jeune prêtre d'une voix lourde de conviction sérieuse.
Nada signifie rien, un sommeil sans rêve. Mais Pascal a compris que l'absence de rédemption était pire que cela. C'est l'éternel regret, le désir ardent, l'infinie tristesse.
Et l'enfer ? Demandai-je. Le châtiment éternel ? Le père Clifton serra ses mains l'une dans l'autre, visiblement gêné par ce côté de l'équation.
Peut-être, mais même si l'enfer est seulement l'éternelle reconnaissance des chances que l'on a perdues, pourquoi risquer cela ? Pascal a compris que si l'Église se trompait, on ne perdait rien en embrassant son espoir. Et si elle avait raison ?
Je souris. N'est-ce pas un peu cynique, mon père ? Les yeux pâles du prêtre plongèrent droit dans les miens.
Pas autant que d'aller à la mort sans raison, Roll. Alors que vous pouvez accepter le Christ pour Seigneur, faire du bien aux autres êtres humains, servir votre communauté, vos frères et sœurs dans le Christ, et ce faisant sauver votre vie physique et votre âme immortelle.
Je hochai la tête. Au bout d'une minute, je dis « Peut-être qu'à l'époque où il a vécu, c'était important. » Le père Clifton cligna des yeux, sans me suivre. « Je parle de Blaise Pascal, » dis-je. Il a connu une révolution intellectuelle comme l'humanité en avait rarement vu. En plus, Copernic, Kepler et leurs disciples venaient d'ouvrir tout grand l'univers. Le soleil était devenu juste une étoile, père. Tout était déplacé, poussé de côté, ôté du centre. Pascal dit un jour, le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Le père Clifton se pencha plus près. Je pus sentir l'odeur de savon et de crème à raser sur sa police.
Raison de plus pour réfléchir à la sagesse de son pari, Roll.
Je fermai les yeux, désireux de m'éloigner de cette lune rose et fraîchement rasée qu'était son visage. Je craignais de sentir la sueur, la douleur et la peur. Je ne m'étais pas lavé les dents depuis 2 jours.
Je n'ai pas envie de faire un pari si cela signifie traiter avec une église qui est devenue si corrompue qu'elle impose l'obéissance et la soumission en échange de la vie d'un enfant.
Le père Clifton recula comme si je l'avais giflé. Sa peau claire s'empourpra. Puis il se leva et me tapota le bras.
Vous avez besoin de dormir. Nous reparlerons demain, avant que vous partiez.
Mais je n'aurai pas jusqu'à demain. Si je m'étais trouvé dehors, à ce moment-là, en train de regarder le cadran précis de ce ciel de fin d'après-midi, j'aurais vu des flammes égratigner le dôme de cobalt tandis que le vaisseau de descente de Nemes pénétrait dans la structure d'atterrissage de la base de la Pax à Bombassino. Après le départ du père Clifton, je tombai endormi. J'observais, Aîné et moi,
assis dans le vestibule de son abri, poursuivant notre conversation dans la nuit du désert. « J'ai déjà fait ce rêve, » dis-je en regardant autour de moi, en tâtant la pierre sous la toile. Le roc gardait encore un peu de la chaleur du jour.
« Oui. »
Aînée but une petite gorgée du thé qu'elle s'était resservie. « Tu allais me révéler le secret qui fait de toi le Messie, » m'entendis-je dire. « Le secret qui fait de toi le lien entre deux mondes dont parlait Lia Humon. »
« Oui, »
répondit mon ami en hochant de nouveau la tête.
« Mais d'abord, dis-moi si tu penses que ta réponse au père Clifton était satisfaisante. »
« Satisfaisante ?» Je haussai les épaules. J'étais en colère. Aînée sirota son thé. De la vapeur qui s'élevait de la tasse caressait ses cils.
« Mais tu n'as pas vraiment répondu à sa question sur le pari de Pascal. »«
Je n'avais pas besoin d'en dire plus, »
répliquai-je un peu irrité. « Le petit Binria Demloa Alem se meurt du cancer. L'Église se sert de son cruciforme comme d'un moyen de pression. C'est pervers, infect. Je ne veux pas participer à cela. »
Aînée me regarda par-dessus le bord fumant de la tasse.
« Et si l'Église n'était pas corrompue, Roll ? Si elle offrait le cruciforme sans rétribution, sans arrière-pensée, l'accepterais-tu ?
Non. La rapidité de ma réponse me surprit. La jeune fille sourit.
Alors ce n'est pas la corruption de l'Église qui est au cœur de ton objection. Tu rejettes la résurrection elle-même.
Je fus sur le point de répondre, hésitai, fronçai les sourcils, puis reformulai ma pensée. C'est ce genre de résurrection que je rejette.
Oui.
Toujours souriante, Aînée dit.
Y en a-t-il une autre ?
L'Église le pensait autrefois. Pendant près de 3000 ans, la résurrection qu'elle offrait, c'était celle de l'âme, pas celle du corps.
Et tu crois à ce genre de résurrection ?
Non, répondis-je aussi rapidement que la première fois. Le pari de Pascal ne m'a jamais séduit. Il me paraît logiquement creux.
Peut-être parce qu'il n'énonce que deux choix.
Quelque part dans la nuit du désert, un hibou lança un seul cri, bref, aigu.
La résurrection spirituelle et l'immortalité, ou la mort et la damnation,
dit-elle. Ces deux dernières choses ne sont pas identiques.
Non, mais peut-être que pour quelqu'un comme Blaise Pascal, elle l'était. Quelqu'un que terrifiait le silence éternel de ces espaces infinis ?
Une agoraphobie spirituelle ? Aînée rit. Le son était si sincère et spontané que je ne pus m'empêcher de l'aimer. C'était son rire.
La religion nous a, semble-t-il, toujours offert cette fausse dualité,
dit-elle en reposant sa tasse de thé sur une pierre plate.
Le silence de l'espace infini ou le réconfort douillet de la certitude intérieure ?
J'émis un bruit grossier.
L'Église de la Pax offre une certitude plus pragmatique.
Ouais. Il se peut qu'aujourd'hui ce soit son seul recours. Peut-être notre réservoir de foi spirituelle s'est-il épuisé.
Peut-être l'est-il depuis bien longtemps, dis-je sombrement. La superstition a prélevé un terrible tribut sur notre espèce. Les guerres, les pogroms. La résistance à la logique, à la science et à la médecine. Sans parler du pouvoir croissant remis entre les mains de gens comme ceux qui dirigent la Pax.
La religion n'est-elle alors que superstition, Roll ? Toutefois, une folie ?
Je la regardais en plissant les yeux. La faible lumière intérieure de l'abri et la lueur des étoiles encore plus faibles jouaient sur ses pommettes saillantes et la douce courbe de son menton. « Que veux-tu dire ? » demandai-je, m'attendant à un piège.
« Si tu avais foi en moi, serait-ce une folie ?»«
Foi en toi ? » ?»« Comment ?» dis-je d'une voix qui me parut soupçonneuse, presque boudeuse. « En tant qu'ami ou en tant que messie ?»«
Où est la différence ?»
demanda Aînée en souriant de nouveau, de cette façon qui, généralement, signifiait qu'elle allait bientôt me défier. La foi en une amie, c'est... De l'amitié? De la fidélité? J'hésitais. De l'amour.
Et la foi en un messie?
Dit Aîné dont les yeux reflétaient la lumière. Je fis un geste brusque de rejet. C'est de la religion.
Et si ton ami est le messie?
Insista-t-elle en souriant ouvertement.
Tu veux dire, si ton ami pense qu'elle est le messie?
Je haussai de nouveau les épaules. Je suppose que tu lui restes fidèle et que tu essaies de lui éviter de finir à l'asile. Le sourire d'Aîné s'évanouit, mais je sentis que ce n'était pas à cause de mon commentaire cruel. Son regard s'était tourné vers l'intérieur.
Je voudrais bien que ce soit aussi simple, mon ami chéri.
Touché, rempli d'une vague d'inquiétude aussi réelle qu'une nausée subite, je dis « Tu allais m'expliquer pourquoi tu as été choisi pour être ce messie, ma grande. Ce qui fait de toi un lien entre deux mondes. » La jeune fille, la jeune femme plutôt, pensais-je, hocha solennellement la tête.
« J'ai été choisie simplement parce que je suis la première enfant du centre et de l'humanité. »
Elle m'avait déjà dit cela. Cette fois, j'acquiesçais. « Alors, ce sont les deux mondes que tu relis? Le centre et nous ?»«
Deux des mondes, oui. »
répondit Aîné en levant de nouveau les yeux vers moi.
« Pas seulement ces deux mondes. C'est précisément ce que sont les messies, Roll. Un pont entre des mondes différents, des époques différentes. Ils fournissent un lien entre deux concepts irréconciliables.
« Et tes liens avec deux de ces mondes font de toi le Messie, » répétai-je. Aîné fit non de la tête, vite, presque avec impatience. Quelque chose qui ressemblait à de la colère brilla dans ses yeux.
« Non !»
répliqua-t-elle d'un ton net.
« Je suis le Messie à cause de ce que je peux faire. »
Sa véhémence me fit fermer les yeux. « Que peux-tu faire, ma grande ?» Elle leva la main et me toucha gentiment.
« Tu te souviens, Roll, quand je t'ai dit que l'Église et la Pax avaient raison en ce qui me concernait? Que j'étais un virus ?»«
Oui, oui. » Elle me serra le poignet.
« Je peux transmettre ce virus, Roll. Je peux infecter les autres, en progression géométrique, créer une épidémie de porteurs. »«
Porteurs de quoi ? De la messianité ?» Elle fit non de la tête. Son expression était si triste qu'elle me donna envie de la consoler, de la prendre dans mes bras. Sa prise sur mon poignet demeura ferme.
« Non. Seulement de la prochaine étape vers ce que nous sommes, ce que nous pouvons être. »
Je repris ma respiration. « Tu as parlé d'enseigner la physique de l'amour, de l'amour compatissant en tant que force fondamentale de l'univers. Est-ce cela, le virus ? » Sans lâcher mon poignet, elle me regarda longuement.
« C'est la source du virus, »
dit-elle à voix basse.
« Ce que j'enseigne, c'est comment utiliser cette énergie.
Comment ?» chuchotai-je. Aîné cligna lentement des yeux, comme si c'était elle qui rêvait et était sur le point de se réveiller.
« Disons qu'il y a quatre dispositions. Quatre étapes. Quatre niveaux. »
J'attendis. Ses doigts formèrent une boucle autour de mon poignet emprisonné.
La première étape, c'est apprendre le langage des morts.
Qu'est-ce que ça ?
Chut !
Aîné leva l'index de la main libre et le posa sur ses lèvres.
La deuxième, c'est apprendre le langage des vivants.
Je hochai la tête, sans comprendre aucune de ces phrases.
La troisième, c'est entendre la musique des sphères,
murmura-t-elle. Au cours de mes lectures à Taliesin West, j'étais tombé sur cette ancienne expression. Elle était imprégnée d'astrologie et à l'ère préscientifique de l'ancienne Terre, elle parlait des petits modèles en bois de Kepler, d'un système solaire basé sur des formes parfaites, d'étoiles et de planètes mues par les anges, des volumes entiers pleins de paroles trompeuses.
je ne voyais pas de quoi mon ami parlait et comment cela pouvait s'appliquer à un âge où l'humanité se déplaçait plus vite que la lumière dans ce bras spiral de la galaxie.
« La quatrième étape, »
dit-elle, le regard de nouveau tourné vers l'intérieur,
« c'est apprendre à faire le premier pas. »
« Le premier pas, » répétai-je embrouillé. « Tu veux dire la première étape que tu as mentionnée ? Qu'est-ce que c'était ? Apprendre le langage des morts ?» Aîné fit non de la tête en ramenant lentement son regard sur moi.
« Non, je veux dire faire le premier pas. »
Retenant presque ma respiration, je dis « D'accord, je suis prêt, ma grande. Apprends-moi. » Aîné sourit de nouveau.
C'est l'ironie de la chose, Roll. Si je décide de faire cela, je serai toujours connue comme celle qui enseigne. Mais ce qu'il y a d'idiot, c'est que je ne suis pas obligée d'enseigner. Je dois seulement transmettre le virus pour communiquer chacune de ces étapes à ceux qui souhaitent apprendre.
Je regardais ses doigts minces qui encerclaient une partie de mon poignet. Alors, « tu me l'as déjà donné, ce virus ?» demandai-je. Je n'éprouvais rien que la secousse électrique habituelle que son contact avait toujours provoquée en moi. Mon ami éclata de rire.
« Oh, Roll, tu n'es pas prêt. Et il faut la communion pour partager le virus, pas seulement le contact. Et je n'ai pas encore décidé quoi faire. Et si je devais faire ça ?»«
Partager avec moi ?» dis-je, pensant la communion.
Partagez avec tout le monde,
chuchota-t-elle de nouveau sérieuse.
Avec tous ceux qui sont prêts à apprendre.
Elle me regarda de nouveau droit dans les yeux.
Ces niveaux, ces étapes, ne peuvent pas coexister avec un cruciforme, Roll.
Alors les régénérés ne peuvent pas apprendre ? Cela éliminerait l'immense majorité des êtres humains. Elle fit non de la tête.
Ils peuvent apprendre. Ils ne peuvent simplement pas rester régénérés. Le cruciforme doit disparaître.
Je poussai un soupir. Je ne comprenais pas la plus grande partie de ce qu'elle racontait parce que cela ressemblait à des paroles trompeuses. « Est-ce que tout Messie dit des paroles trompeuses ?» demanda la part cynique de mon être. Avec la voix raisonnable de grande âme. Tout haut, je dis « Il n'y a pas moyen d'ôter un cruciforme sans tuer la personne qui le porte. De la vraie mort. » Je m'étais toujours demandé si c'était surtout à cause de cela que je rechignais à me soumettre à la croix. Ou peut-être était-ce seulement ma croyance juvénile dans ma propre immortalité. Aîné ne répondit pas directement.
Tu aimes bien les gens de l'hélice du spectre d'Amoyat, n'est-ce pas ?
Clignant des yeux, j'essayais de comprendre. Avais-je rêvé cette phrase, ces gens, cette douleur ? N'étais-je pas en train de rêver ? Ou était-ce le souvenir d'une vraie conversation ? Mais Aîné ne savait rien de Demria, d'Emloa et des autres. La nuit, l'abri de pierre et de toile parurent ondulés comme un paysage de rêve mis en lambeaux. Je les aime bien. Répondis-je, sentant mon ami ôter ses doigts de mon poignet. N'était-ce pas ce poignet-là qui était attaché par des menottes au dosseret ? Aîné hocha la tête et but une gorgée de son thé refroidi.
Qu'y a de l'espoir pour tous les gens de l'hélice du spectre ? Et pour des milliers d'autres cultures qui sont revenues ou apparues depuis la chute ? L'hégémonie signifiait l'homogénéité, Roll. Et la Pax, encore plus. Le génome humain, l'âme humaine, se méfie de l'homogénéité, Roll. Ils sont toujours prêts à tenter leur chance, à risquer le changement et la diversité.
Aîné, dis-je en tendant la main vers elle,
nous ne pouvons pas.
J'eus l'horrible impression de tomber, et le paysage onirique se délita comme un mince carton sous une grosse averse. Je n'arrivais plus à voir mon ami.
Debout, Roll. Ils arrivent. La Pax vient d'arriver.
J'essayais de me réveiller, avançant à tâtons vers la conscience comme une machine lente gravit une colline. Mais le poids de la fatigue et des analgésiques ne cessait de me tirer en arrière. Je ne comprenais pas pourquoi Aîné voulait me réveiller. Nous parlions si bien en rêve.
« Réveillez-vous, Roland Dimion !»
Aîné ne me vouvoyait pas. Ce n'était pas Aîné. Même avant d'être pleinement éveillé et conscient, je reconnus la voix douce et le fort accent de Demria. Je me dressais sur mon séant. Cette femme me déshabillait. Je compris qu'elle m'avait déjà ôté l'ample chemise de nuit et tentait de m'enfiler un t-shirt propre qui sentait la brise fraîche, mais c'était bien mon t-shirt. J'avais déjà mon slip. Mon pantalon en serge, ma chemise et ma veste étaient étalés au pied du lit. Comment avait-elle fait cela avec les menottes? Je regardais mon poignet. Les menottes reposaient ouvertes sur la couverture. Le bras me picotait du retour de la circulation. Je me passais la langue sur les lèvres et tentais de parler clairement.
« La Pax arrive ?»
Demria m'enfila ma chemise comme si j'étais Bin ou un enfant plus jeune. Je lui fis signe de me laisser faire et tentai de fermer les boutons avec des doigts soudain maladroits. On se servait de boutons et non de fermetures sceaux à Taliesin Ouest sur l'ancienne terre. Je croyais en avoir pris l'habitude, mais cela demandait une éternité.
« Et on a entendu à la radio qu'un vaisseau de descente avait atterri à Bombassino, avec à bord 4 personnes en uniforme inconnu, 2 hommes, 2 femmes. Ils ont questionné le commandant à votre sujet. Ils viennent juste de redécoller. Le vaisseau de descente est 3 glisseurs. Ils seront ici dans 4 minutes. Peut-être moins.
À la radio, dis-je stupidement, je croyais que vous aviez dit que la radio ne fonctionnait pas. N'est-ce pas pour cette raison que le prêtre est allé à la base chercher le médecin?
La radio du père Clifton ne marchait pas,
balbutia Demria en me mettant de force sur mes pieds. Elle me maintint en équilibre pendant que j'enfilais mon pantalon.
Nous avons des radios, des transmetteurs sur faisceaux étroits, des relais satellites. La Pax ne sait rien de tout cela. Et aussi des espions parmi eux. L'un d'eux nous a avertis. Dépêchez-vous, Roland Dimion. Les vaisseaux seront là dans 1 minute.
Alors je me réveillais tout à fait, littéralement douché par la colère et le désespoir qui menaçaient de m'emporter. Ces salauds ne me laisseront donc jamais en paix? 4 personnes en uniforme inconnu. La Pax, bien sûr. Évidemment, quand le prêtre capitaine de Soya nous avait laissé fuir du piège sur le bosquet de Dieu 4 ans auparavant, cela n'avait pas mis fin à leur recherche. Je regardais l'affichage du chronomètre sur mon persoc. Les vaisseaux allaient atterrir dans 1 minute environ. Je n'avais pas le temps de m'enfuir avant que les soldats de la Pax me trouvent. « Laissez-moi sortir, » dis-je en m'écartant de la petite femme en toge bleue. La fenêtre était ouverte, la brise me parvenait à travers les rideaux. Je croyais entendre le bourdonnement presque ultrasonique des glisseurs. « Il faut que je m'éloigne de votre maison !» J'imaginais la Pax en train de l'incendier alors que Cess Ambre et Bin étaient à l'intérieur. Demria me tira loin de la fenêtre. À ce moment, l'homme de la famille, le jeune Alem Mikhail Demalem, entra avec Demloa. Il portait le lourd lusien de l'infanterie de la Pax qu'on avait laissé pour me garder. Cess Ambre, dont les yeux noirs brillaient, souleva les pieds du soldat pendant que Bin s'efforçait de lui ôter ses énormes bottes. Le lusien était profondément endormi, la bouche ouverte, la salive coulant sur le grand col de son treillis. Je regardais Demria.
« Demloa lui a apporté du thé, il y a un quart d'heure, »
dit-elle d'une voix douce. Son geste gracieux fit onduler la manche bleue de sa toge.
« J'ai bien peur que nous n'ayons utilisé le reste de votre ultramorphine, Roland Dimion. »
« Il faut que je m'en aille, » commençai-je.
Le mal de dos était supportable, mais j'avais les jambes qui tremblaient.
« Non, » dit Demria. « Ils vous rattraperont dans 2 minutes. »
Elle désigna du doigt la fenêtre d'où nous parvint le grondement subsonique, bien reconnaissable d'un vaisseau de descente en propulsion EM, suivi du bruit sourd et de l'aboiement de ses tuyères. La chose devait planer au-dessus de la bourgade, à la recherche d'un endroit où atterrir. Une seconde plus tard, la fenêtre vibra d'un triple bang supersonique et deux glisseurs noirs virèrent au-dessus des bâtiments voisins. Alem Mikhail avait ôté au Lusien ses sous-vêtements en fibre thermique et l'avait couché sur le lit. Il referma d'un coup sec l'une des menottes sur son poignet droit et l'autre sur la barre du dosseret. Demloa et Cess Ambre s'emparèrent rapidement du treillis, du blindage corporel et des énormes bottes et les fourrèrent dans un sac à linge sale. Le petit Binria Demloa Alem jeta le casque du soldat dans le sac. Le petit garçon maigre portait le lourd pistolet à fléchette. Je sursautais en voyant cela. Les enfants et les armes, c'était une combinaison que j'avais appris à redouter quand j'étais moi-même enfant et apprenais à manipuler les armes à énergie tandis que notre caravane traversait en grondant les Landes d'Hyperion. Mais Alem sourit et prit le pistolet des mains du petit garçon en lui tapotant le dos. À voir la manière dont Bin tendit l'arme, les doigts à l'écart du pontet, il pointa la gueule loin de son père et de lui, vérifia l'indicateur de sécurité au moment de rendre le pistolet. J'en conclus qu'il avait déjà manipulé ce genre d'objet. Bin me sourit, s'empara du sac lourd contenant tous les effets du soldat et sortit en courant de la pièce. Le bruit, dehors, grandit et je me retournai pour regarder par la fenêtre. Un glisseur noir soulevait le sable à moins de 30 mètres dans la rue qui longeait le canal. Je l'aperçus entre deux maisons. Le vaisseau de descente, plus grand, plongea hors de ma vue, atterrissant probablement sur la prairie, près du puits où je m'étais effondré de douleur à cause du calcul rénal. Je venais d'enfiler mes bottes et de fermer ma veste lorsque Alem me tendit le pistolet à fléchette. Je vérifiais, par habitude, la sécurité et les indicateurs du propulseur de charge, puis secouai la tête. Non. Ce serait du suicide d'attaquer les soldats de la Pax avec ça. Leur armure, je ne pensais pas vraiment à cela, mais plutôt à la riposte de leurs armes d'assaut qui raseraient cette maison en une seconde. Je pensais au petit garçon dehors avec le sac à linge sale contenant l'armure du soldat. Bin, dis-je. S'il l'attrape...
Nous savons.
Dit Demria en m'éloignant du lit et en m'entraînant dans le couloir étroit. Je ne me souvenais pas de cette partie de la maison. Mon univers depuis une quarantaine d'heures se réduisait à la chambre à coucher et aux toilettes adjacentes.
« Venez, venez !»
dit-elle. Je m'écartai d'elle de nouveau en tendant le pistolet à Alem.
« Laissez-moi m'enfuir »
dis-je le cœur battant. Je montrai du geste le Lusien qui ronflait.
« Ils ne penseront pas une seconde que c'est moi. Ils peuvent questionner le médecin sur faisceau étroit, si elle n'est pas déjà à bord d'un des glisseurs, pour qu'elle m'identifie. » « Dites-leur seulement, »
je regardais leurs visages amicaux,
« dites-leur que j'ai maîtrisé le soldat et que je vous ai obligé sous la menace de l'arme. »
Je m'arrêtai alors, comprenant que le Lusien démolirait cette histoire dès qu'il se réveillerait. Impossible de dissimuler que la famille était complice de ma fuite. Je regardais de nouveau le pistolet à fléchette, sur le point de le reprendre. Une volée d'aiguilles d'acier et le soldat endormi ne se réveillerait jamais pour détruire mon mensonge et mettre en danger ces braves gens. Seulement je ne pourrais jamais le faire. Je pouvais tuer un soldat de la Pax en combat loyal, la giclée d'adrénaline de la colère qui brûlait en moi malgré ma faiblesse et ma frayeur m'avertit que ce serait un vrai soulagement d'en avoir la possibilité, mais je ne pourrais jamais abattre un homme endormi. Pourtant, il n'y aurait jamais de combat loyal. Des soldats de la Pax en armure, et encore plus ces quatre personnages mystérieux dans le vaisseau de descente, des gardes suisses, seraient invulnérables aux fléchettes et à n'importe quoi d'autre, sauf aux armes d'assaut de la Pax. Et les gardes suisses seraient même invulnérables à ces dernières. J'étais foutu. Ces braves gens qui s'étaient montrés si bons pour moi étaient foutus. Une porte de derrière s'ouvrit soudain et Bin se glissa dans le couloir, révélant sous sa toge relevée des jambes maigres comme des allumettes couvertes de poussière. Je le regardais fixement, pensant que le petit garçon n'aurait pas son cruciforme et mourrait du cancer. Les adultes passeraient sans doute les 10 années à venir dans une prison de la Pax.
« Je suis désolé, » dis-je en cherchant mes mots.
J'entendis le brouhaha que soulevait la ruée des soldats dans la cohue vespérale des piétons.
« Roland Dimian, »
dit Demloa de sa voix douce en me tendant le sac à dos qu'ils avaient rapporté de mon kayak.
« Je vous en prie. Taisez-vous et suivez-nous. Vite !»
il y avait un tunnel sous le plancher du couloir. J'avais toujours pensé que les passages secrets n'existaient que dans les holodrames, mais je suivis Demria de bon cœur dans celui-là. Nous formions une étrange procession. Demria et Demloa, qui descendaient l'escalier abrupt devant moi, puis moi, portant le pistolet à fléchette et enfilant maladroitement le sac à dos, ensuite le petit Bin suivi par sa sœur, Cess Ambre, et enfin Alem Mikhail Demalem qui referma soigneusement la trappe derrière lui. Personne ne resta derrière. La maison était vide, à l'exception du Lusien en train de ronfler. L'escalier dépassa le niveau d'une cave normale et tout d'abord je crus que les parois étaient en adobe, comme celle du haut. Puis je m'aperçus que le passage avait été taillé dans une pierre tendre, peut-être du grès. 27 marches et nous arrivâmes au fond du puits vertical. Demria s'engagea dans un couloir étroit, éclairé par de pâles globes fluorescents. Je me demandais pourquoi cette famille de travailleurs appartenant à la classe moyenne disposait d'un passage souterrain. Comme si elle lisait dans mes pensées, Demloa tourna sa tête encapuchonnée de bleu vers moi et murmura
« L'hélice du spectre d'Amoyette exige des moyens de passer discrètement d'une maison à l'autre, surtout pendant les doubles ténèbres. »«
Les doubles ténèbres ? » murmurai-je en baissant la tête pour passer sous l'un des globes. Nous avions déjà parcouru 20 ou 25 mètres en nous éloignant du canal, pensais-je, et le tunnel continuait en tournant vers la droite.
« La lente éclipse double du soleil par les deux lunes de cette planète, »
chuchota Demloa.
« Elle dure exactement 19 minutes. C'est la raison essentielle pour laquelle nous avons choisi ce monde. Je vous en prie, pardonnez-moi le jeu de mots.
« Fis-je, je ne comprenais pas, mais cela importait peu étant donné les circonstances. Les troupes de la PAC sont des censeurs capables de découvrir des trous de souris comme celui-ci, » chuchotai-je aux femmes qui marchaient devant moi. « Ils ont un radar de profondeur pour sonder le roc. Ils ont... »«
Oui, oui, » dit Alem derrière moi, « mais ils seront retenus pendant quelques minutes par le maire et les autres. »
« Le maire ?» répétai-je un peu stupidement. Mes jambes étaient encore faibles des 2 jours de lit et de douleur. Mon dos et mon bas-ventre me faisaient mal, mais c'était une souffrance mineure, sans importance, comparée à celle que j'avais endurée depuis 2 jours.
Le maire est en train de mettre en doute le droit de la Pax à perquisitionner,
fit Demria à voix basse. Le tunnel s'élargissait et s'étendait tout droit pendant au moins 100 mètres. Nous dépassâmes 2 embranchements. Ce n'était pas un terrier de refuge, mais de sacrées catacombes.
La Pax reconnaît l'autorité du maire à Lockchild de la Monde,
murmura-t-elle. Les toches soyeuses des 5 membres de la famille en bleu chuchotaient aussi contre le grès, tandis que nous parcourions en toute hâte le passage.
Nous avons encore des lois et des tribunaux sur Vitus Greybalianus B. Aussi n'ont-ils pas le droit de pratiquer des fouilles illimitées et des arrestations.
Et ils vont se faire envoyer les permissions dont ils ont besoin par une autorité, quelle qu'elle soit, dis-je en pressant le pas pour suivre les femmes. Nous arrivâmes à une autre bifurcation et tournâmes à droite.
Pour finir, oui,
répondit Demloa.
Mais les rues sont maintenant pleines de toutes les couleurs du brin de l'hélice vivant à Lockchild-la-Monde. Les rouges, les blancs, les verts, les noirs, les jaunes, des milliers d'habitants de notre bourgade. Et d'autres encore arrivent des locs voisins. Personne ne dira spontanément dans quelle maison vous étiez gardé. Le père Clifton a été entraîné hors de la ville par ruse. Aussi ne peut-il aider les soldats de la Pax. Le docteur Molina a été retenu à Keroatambat par certains d'entre nous. Et ne pourra pour le moment être contacté par ses supérieurs de la Pax. Quant à votre gardien, il va dormir encore pendant 1 heure. Par ici.
Nous tournâmes à gauche, dans un passage plus large, pour nous arrêter devant la première porte que je voyais ici. Nous attendîmes que Demria active la serrure palmaire, puis nous pénétrâmes dans un grand espace sonore taillé dans la pierre. Nous nous trouvions en haut d'un escalier métallique donnant sur ce qui semblait être un garage souterrain.
Il y avait là une demi-douzaine de véhicules longs et minces, pourvus de roues géantes, d'ailes à l'arrière, de voiles et de pédales, tous groupés par couleur primaire. Ces choses ressemblaient à des voitures hippomobiles posées sur des suspensions en pattes d'araignée, visiblement propulsées par le vent et la force musculaire, et recouvertes de bois, de tissus polymères soyeux et brillants, et de perspex.
« Des cyclovents, »
dit Cess Ambre. Plusieurs hommes et femmes en toge émeraude et grandes bottes préparaient trois de ces véhicules pour le départ. Mon kayak était arrimé à l'arrière d'un de ces longs chariolis. Tout le monde descendit l'escalier sonore, mais moi, je m'arrêtai en haut des marches. Mon hésitation fut si soudaine que Bean et Cess Ambre faillirent me rentrer dedans.
« Qu'y a-t-il ? » demanda Alem Mikael.
Je sortis le pistolet à fléchette à la ceinture et j'ouvris les mains.
« Pourquoi faites-vous cela ? Pourquoi tout le monde m'aide-t-il ? Qu'est-ce qui se passe ?»
Demriya remonta d'une marche et s'appuya à la rampe. Ses yeux étaient aussi brillants que ceux de sa fille tout à l'heure.
« S'il vous prenait, Roland Dimillon, il vous tuerait. »«
Comment le savez-vous ? »
Je parlais à voix basse, mais l'acoustique du garage souterrain était telle que les hommes et les femmes en vert quittèrent leur travail des yeux et nous regardèrent.
« Vous parlez en dormant ?»
dit Demloa. Je penchai la tête sur le côté sans comprendre. J'avais rêvé d'Aîné et de notre conversation. Qu'est-ce que cela pouvait signifier pour ces gens ? Demriya remonta d'une autre marche et posa sa main froide sur mon poignet.
« Les lys du spectre d'Amoyette a prédit la venue de cette femme, Roland Dimillon, celle qui se nomme Aîné. Nous l'appelons celle qui enseigne. »
Ces paroles me donnèrent la chair de poule, sous la lumière glacée des globes fluorescents de ce lieu souterrain. Le vieux poète, l'oncle Martin, avait qualifié ma jeune amie de messie, mais son cynisme imprégnait tout ce qu'il disait ou faisait. Les gens de Taliesin West avaient respecté Aîné, mais de là à croire que l'énergique jeune fille de 16 ans était réellement un personnage historique mondial, cela semblait improbable. Elle et moi, nous en avions parlé dans la vie réelle et dans mes rêves d'ultramorphine, mais... Bon Dieu, j'étais sur une planète à des douzaines d'années-lumière d'Hyperion et à une distance éternelle du petit nuage de Magellan où l'ancienne Terre se cachait. Comment ces gens avaient-ils...
Alpul Amoyette pensait à celle qui enseigne quand il composa la symphonie de l'Hélice,
dit Demloa.
Tous les gens du spectre descendent de la lignée en pâte. L'Hélice était et est encore un moyen d'affiner cette capacité d'empathie.
Je secouai la tête.
Je suis désolé, je ne comprends pas.
Je vous en prie. « Comprenez au moins ceci, Roland Dimillon, »
dit Demriya dont les doigts serraient presque douloureusement mon poignet.
« Si vous ne fuyez pas ce lieu, la Pax aura votre âme et votre corps, et celle qui enseigne a besoin des deux. »
Je lui jetai un coup d'œil en coin, pensant qu'elle plaisantait. Mais son visage agréable et lisse était sérieux.
« Je vous en prie. »
dit le petit Bean en posant sa petite main sur la mienne et en me tirant.
« Je vous en prie, dépêchez-vous, Raoul. »
Je descendis les marches en courant. L'un des hommes en vert me tendit un peignoir rouge. Alem Mikael m'aida à le draper sur mes habits. Il arrangea le burnous et le capuchon rouge en une douzaine de gestes rapides. Je n'aurais jamais été capable de revêtir cela convenablement. Je m'aperçus avec un choc que toute la famille, les deux femmes plus âgées, l'adolescente Cess Ambre et le petit Bean se retrouvaient nus après avoir ôté leur toge bleue et s'enveloppaient dans des rouges. Je vis alors que j'avais eu tort d'imaginer qu'ils ressemblaient aux Lusiens, car bien que leurs corps fussent plus petits que la moyenne des habitants de la Pax et très musclés, ils étaient parfaitement proportionnés. Aucun des adultes n'avait de cheveux ni de poils. D'une manière inexplicable, cela rendait plus attirant leur corps vigoureux, parfaitement harmonieux. Je détournai les yeux en m'apercevant que j'avais rougi. Cess Ambre rit et me donna un coup de coude. Lorsque Alem Mikhaïl se fut changé, nous nous retrouvâmes tous en rouge. Un coup d'œil à son torse très musclé me dit que je ne tiendrais pas 15 secondes s'il fallait que je lutte avec cet homme plus petit que moi. Mais en ce moment, pensais-je, je ne durerais pas plus de 30 secondes non plus contre Demloa ou Demria. Je proposai le pistolet à fléchette à Alem, mais il me fit signe de le garder et me montra comment le ranger dans l'une des multiples ceintures larges de la toge cramoisie. Je pensais à l'absence d'armes dans mon sac à dos, au couteau de chasse Navarro et à la petite torche laser, et le remerciais d'un signe de tête. Les femmes, les enfants et moi, nous grimpâmes en hâte à l'arrière du cyclovent où se trouvait déjà mon kayak, et l'on tira sur les montants une toile rouge qui nous recouvrit. Nous fûmes obligés de nous accroupir lorsqu'on disposa autour et au-dessus de nous une seconde couche de tissu, quelques planches en bois et diverses caisses et barriques. Je pouvais juste distinguer un ray de lumière entre le haillon arrière et le toit du chariot. J'entendis des pas sur la pierre lorsque Alem monta et s'installa sur l'une des deux selles pour pédaler. L'un des autres hommes, aussi en toge rouge, se joignit à lui sur le siège du cycle, de l'autre côté du bâti central. Les mâts toujours baissés, les voiles repliées, nous commençâmes à gravir la rampe afin de sortir du garage.
« Où allons-nous ? »
murmurai-je à Demria, couché presque à côté de moi. Le bois sentait bon comme du cèdre.
« À l'arche du Distrance, en aval du courant, »
me répondit-elle aussi doucement que moi.
« Vous êtes au courant de tout cela ? » dis-je en clignant des yeux.
« Elles vous ont donné du dit vrai, »
chuchota Demloa de l'autre côté d'une caisse.
« Et vous avez parlé en dormant. »
Bin était étendue à ma droite, dans le noir.
« Nous savons que celle qui enseigne vous a envoyé en mission, »
fit-il presque joyeusement.
« Nous savons que vous devez atteindre l'autre arche. »
Il tapota le kayak.
« Je voudrais bien partir avec vous. »
« C'est trop dangereux !»
sifflai-je, sentant le chariot rouler hors du tunnel et émerger à l'air libre. Le soleil bas illumina la toile au-dessus de nous. Le cyclovent s'arrêta une seconde, tandis que les deux hommes dressaient le mât et déployaient la voile.
« C'est trop dangereux !»
De m'emmener aux distances, bien sûr, c'est cela que je voulais dire. Je ne parlais pas de la mission dont m'avait chargé Aîné.
« S'ils savent qui je suis, » chuchotai-je à Demria, « ils vont surveiller l'arche. »
Je vis le contour de son capuchon lorsqu'elle hocha la tête.
« Ils guetteront, Roland Dimillon. C'est dangereux, mais l'obscurité est presque là. Dans 14 minutes. »
Je regardais mon père Soc. Il s'écoulerait au moins 90 minutes avant le crépuscule, d'après ce que j'avais observé les deux jours précédents. Et il y avait presque une heure encore avant la vraie tombée de la nuit.
« L'arche n'est qu'à 6 kilomètres, »
soupira Cesse Ambre de l'autre côté du kayak.
« La fête du spectre va remplir les villages. »
Alors, je compris.
« La double obscurité ?»
murmurai-je.
« Oui, »
Demria me tapota la main.
« Il faut garder le silence maintenant. Nous allons nous glisser dans la circulation. » Sur la voie saline.
C'est trop dangereux,
balbutiai-je une dernière fois tandis que le chariot s'introduisait, en craquant et en gémissant, dans le trafic. J'entendis la chaîne de transmission grincer sous le plancher de la voiture et sentis le vent gonfler la voile.
Trop dangereux, me dis-je seulement à moi-même.
Si j'avais su ce qui se passait à quelques centaines de mètres de là, j'aurais vraiment compris combien c'était dangereux. Je regardais par l'interstice entre le bois du chariot et la toile, tandis que nous parcourions bruyamment la voie saline. Cette route semblait être une bande de sel dure comme le roc, qui reliait les villages rassemblés le long du canal surélevé et le désert maillé qui s'étendait au nord aussi loin que ma vue pouvait porter.
Le désert du Wahhabi.
Chuchota Demria lorsque nous nous élançâmes vers le sud, en roulant de plus en plus vite. D'autres cyclovents nous dépassaient en rugissant, leurs voiles en plein travail, les deux pédaleurs s'évertuant comme des fous. Un nombre encore plus grand de chariots couverts de toiles aux brillantes couleurs louvoyaient dans l'autre sens, leurs voiles disposées différemment, leurs pédaleurs se penchaient vers l'extérieur pour maintenir l'équilibre lorsque les chariots grinçants vacillaient sur deux roues, les deux autres tournoyant inutilement en l'air. Nous parcourûmes les 6 kilomètres en 10 minutes et abandonnâmes la voie saline pour une rampe pavée qui nous conduisit à un groupe de maisons en pierre blanche peint en adobe. Puis Alem et l'autre homme ferlèrent la voile et pédalèrent lentement dans la rue qui passait entre les maisons et le canal. De grandes fougères délicates poussaient sur les berges, entre des jetées façonnées avec recherche, des belvédères et des quais à multiples embarcadères, auxquels étaient attachées des péniches aménagées et très ornées. La ville semblait se terminer là où le canal s'élargissait en une voie d'eau plus semblable à une rivière, et je levai la tête suffisamment pour voir l'immense arche d'Istrance s'élever à quelques centaines de mètres en aval. De l'autre côté du portail, je ne vis qu'une forêt de fougères sur les berges et le désert qui s'étendait à l'est et à l'ouest. Alem guida le cyclovent jusque sur une rampe de chargement en briques et alla le cacher sous le couvert d'un bouquet de grandes fougères. Je jetai un coup d'œil à mon persoc. Il restait moins de 2 minutes avant la double obscurité. À cet instant, un ouragan d'air chaud et une ombre passèrent au-dessus de nous. Nous nous tapîmes encore plus tandis que le glisseur noir de la Pax survolait la rivière à moins de 100 mètres d'altitude. Les lignes aérodynamiques en forme de 8 du véhicule aérien devinrent clairement visibles lorsqu'il s'inclina davantage et descendit en piqué au-dessus des navires qui franchissaient l'arche dans les deux sens. La circulation fluviale était animée là où la rivière s'élargissait. Des périssoirs lisses aux équipes de 4 à 12 rameurs, des hors-bords brillants qui vomissaient des sillages miroitants, des voiliers de toute taille, depuis le dériveur monoplace jusqu'aux jonques ballottées aux voiles carrées, des canoës et des canoës à rames, quelques péniches aménagées imposantes qui bouillonnaient contre le courant, une poignée d'overcraft électriques, silencieux, qui passaient dans un halo d'écume, et même quelques radeaux qui me rappelèrent mon premier voyage avec Aîné et Abétic. Le glisseur survola tout cela à basse altitude, passa au-dessus de l'arche du Distrance, repassa, mais cette fois en dessous, et disparut en direction de Lochchild-Lamonde. « Venez !» dit Alem Mikael en repliant la bâche de toile et en tirant le kayak. « Il faut nous dépêcher !» Brusquement passa un souffle d'air chaud, suivi d'une brise plus froide qui souleva le sable sur la berge. Les fougères chuchotèrent et se secouèrent au-dessus de nous, et le ciel devint pourpre, puis noir. Les étoiles apparurent. Je jetai un coup d'œil en l'air, juste assez longtemps pour voir une couronne emperlée autour d'une des lunes et le disque brûlant du second satellite, plus petit, se mettre en place derrière le premier. Venant du nord, le long de la rivière, remontant en direction de la cité linéaire qui englobait Lochchild-Lamonde, vint le son le plus lugubre et le plus obsédant que j'ai jamais entendu. Un long gémissement, qui semblait plus émis par un gosier humain que par une sirène, suivi par une note soutenue qui devint de plus en plus grave jusqu'à tomber dans le subsonique. Je compris que je venais d'entendre des centaines, peut-être des milliers de klaxons retentissants, tandis que des milliers, peut-être des dizaines de milliers de voix humaines se joignaient à eux en chœur. Les ténèbres se firent plus épaisses. Les étoiles s'enflammèrent. Le disque de la lune la plus basse ressemblait maintenant à un grand dôme éclairé par derrière qui menaçait de tomber à tout moment sur le monde obscurci. Brusquement, les nombreux bateaux sur la rivière, au sud, et sur le canal, au nord, firent retentir leurs sirènes et leurs avertisseurs, ululement cacophonique, celui-ci, qui ne ressemblait en rien à l'harmonie descendante du cœur d'ouverture. Puis ce fut au tour des feux de signalisation et des feux d'artifice. Feux à étoiles multicolores, roues de Sainte-Catherine rugissantes, fusées éclairantes, cordons tressés de feux jaunes, bleus, verts, rouges et blancs, les lys du spectre, et innombrables bombes aériennes. Le bruit et la lumière étaient presque accablants. « Vite !» insista Alem en sortant le kayak du chariot.
Je sautai à terre pour l'aider à ôter ma toge que je lançai à l'arrière du camion. La minute suivante fut une succession précipitée de gestes coordonnés, tandis que Demria, Demloa, Cess Ambre, Bin et moi, aidions Alem et l'homme dont j'ignorais le nom, à porter le kayak au bord de la rivière et à le mettre à flot. J'entrai dans l'eau tiède jusqu'aux genoux, fourrai mon sac à dos et le pistolet à fléchette dans le petit cockpit, maintins le kayak stable contre le courant et regardai les deux femmes, les deux enfants et les deux hommes dans leur toge qui tourbillonnait.
« Que va-t-il vous arriver ? » demandai-je.
Mon dos me faisait souffrir des suites de l'élimination du calcul rénal, mais sur le moment, la contraction de ma gorge constituait une diversion bien plus douloureuse. Demria secoua la tête.
« Il ne nous arrivera rien, Raoul Endymion. Si les autorités de la Pax essayaient de nous faire des ennuis, il nous suffirait de disparaître dans les tunnels sous le désert de Wahhabi jusqu'à ce que l'heure arrive de rejoindre le spectre quelque part ailleurs. »
Elle sourit et ajusta sa toge sur son épaule.
« Mais faites-nous une promesse, Raoul Endymion. »
« Tout ce que vous voulez. Si je peux le faire, je le ferai. »
« Si la chose est possible, demandez à celle qui enseigne de revenir avec vous sur Vitus Grey Balianus B pour rendre visite aux gens de l'hélice du spectre d'Amoyette. Nous essaierons de ne pas nous convertir à la chrétienté de la Pax avant qu'elle soit venue nous parler. »
Je hochai la tête en regardant le crâne chauve de Binria Demloa Alem, son capuchon rouge qui claquait sous l'effet de la brise, ses joues décharnées par la chimiothérapie, ses yeux brillant plus d'excitation que du reflet des feux d'artifice.
« Oui, si c'est possible, je le ferai. »
Alors ils me touchèrent tous, non pour me serrer la main, mais simplement pour me sentir. Leurs doigts se posèrent sur ma veste, ou mon bras, ou mon visage, ou mon dos. Je les touchai aussi, fis tourner la proue du kayak face au courant et entrai dans le cockpit. La pagaie était dans son support, là où je l'avais laissée. Je serrai la jupe autour de moi comme si de l'eau vive m'attendait. En posant le pistolet sur le cockpit, je me cognai la main contre le couvercle en plastique transparent du signal d'alarme rouge qu'Aîné m'avait montré. Si cette interlude ne m'avait pas plongé en pleine panique, je ne savais plus ce qui pourrait le faire. Pris la pagaie de la main gauche et de la droite, leur fit de grands signes d'adieu. Les six silhouettes en toge rouge se fondirent dans les ombres des fougères lorsque le kayak glissa rapidement dans le courant central. L'arche du Distrans grandit. Au-dessus de ma tête, la première lune commença à apparaître derrière le disque du soleil, mais la seconde, plus grosse, vint recouvrir les deux. Les feux d'artifice et les hurlements des sirènes continuaient et devenaient même de plus en plus frénétiques. Lorsque j'approchais du Distrans, je me mis à pagayer vers la rive droite tout en essayant de rester au sein du trafic des petits bateaux qui se dirigeaient vers l'aval, mais je gardais mes distances. « S'ils doivent m'intercepter, pensais-je, ce sera ici. » Sans réfléchir, je posai le pistolet à fléchette sur la coque recourbée devant moi. Comme maintenant le courant rapide m'emportait, je remis la pagaie dans son support et attendis de passer sous le Distrans. Aucun autre navire, aucun autre petit bateau ne devait être sous le portail quand il s'activerait. Au-dessus de moi, l'arche dessinait une courbe de ténèbres sur le ciel étoilé. Brusquement, il se produisit une violente perturbation sur le rivage à moins de 20 mètres sur ma droite. Je repris le pistolet et regardai sans comprendre ce que je voyais et ce que j'entendais. Deux explosions comme des bangs supersoniques, des éclairs stroboscopiques de lumière blanche. Des feux d'artifice? Non, ces éclairs étaient bien plus brillants. Des armes à énergie? Trop brillant, trop diffus. Cela ressemblait plus à de petites explosions de plasma. Puis, j'aperçus brièvement quelque chose, plus une persistance rétinienne qu'une vision. Deux silhouettes sauvagement enlacées, des images inversées telles le négatif d'une ancienne photographie, un mouvement brusque, violent, un autre bang supersonique, un éclair blanc qui m'aveugla avant même que l'image soit enregistrée par mon cerveau, des pointes,
des épines, deux têtes qui se cognaient l'une contre l'autre, six bras qui battaient l'air, des étincelles, une forme humaine et quelque chose de plus grand. Le bruit du métal qui se déchire, le hurlement de quelque chose ou de quelqu'un qui criait plus fort que l'ululement des sirènes sur la rivière, derrière moi. L'onde de choc de l'événement, quel qu'il fût, qui se passait sur la berge, rida la rivière, faillit retourner mon kayak, et poursuivit son chemin comme un rideau de gouttelettes blanches. Quand je fus sous l'arche du Distrance, se produisirent l'éclair et le bref vertige que je connaissais déjà. Une brillante lumière m'enveloppa, m'aveuglant comme un flash. Le kayak et moi, nous tombâmes. Nous tombions vraiment. Dans l'espace. Une partie de l'eau qui était sous moi forma une brève cascade, mais le kayak n'était plus dessus et tournoyait en tombant. Pris de panique, je laissai tomber le pistolet à fléchettes dans le cockpit et m'agrippai à la coque qui tournait de plus en plus follement dans sa chute. Je clignais des paupières pour chasser la rémanence de l'éclair et tenter de voir de quelle hauteur j'allais tomber, tandis que le kayak, proue pointée vers le bas, prenait de la vitesse. Un ciel bleu au-dessus de ma tête, des nuages tout autour, d'énormes nuages, des stratocumulus qui s'élevaient à des milliers de mètres et descendaient à plusieurs milliers de mètres sous moi, des cirrus de plusieurs kilomètres au-dessus, des nuages d'orage noirs à plusieurs kilomètres en dessous. Il n'y avait rien que le ciel, et moi en train de tomber. La brève chute d'eau provenant de la rivière s'était séparée en gouttes géantes d'humidité, comme si quelqu'un avait pris des centaines de baquets d'eau pour les lancer violemment dans un gouffre sans fond. Le kayak tournoya et menaça de se retourner, poupe par-dessus proue. Je fus précipité en avant et faillis dégringoler, seulement retenu par mes jambes croisées et la petite jupe mouillée. Je m'agrippais au bord du cockpit dans une prise désespérée qui blanchit mes articulations. L'air froid me fouettait et rugissait autour de moi, tandis que le kayak et moi accélérions, précipités vers une chute mortelle. Des milliers et des milliers de mètres d'air vide s'étendaient entre moi et les nuages zébrés d'éclairs, si loin en dessous. La pagaie double s'arracha à son support et dégringola en chute libre. Je fis la seule chose possible en de telles circonstances. J'ouvris la bouche et je hurlais.